10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est tous les vendredis sur Beurre FM entre 10h et 11h. Votre rendez-vous, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec toi. Alhamdulillah, tous les vendredis.
Est-ce qu'il faut que je dise que je suis ravi d'être avec vous ?
Eh ben moi en tout cas je le suis, donc bon. Je le dis.
Alors je le dis aussi, voilà.
Eh ben, c'est
je suis content de vous retrouver.
Mashallah.
Avec, alors il n'y a pas que l'anniversaire de Mona cette semaine, hein. Il y a aussi l'anniversaire de...
De Taïsir aujourd'hui.
Taïsir, Mohamed Taïsir aujourd'hui.
Mohamed Taïsir, il a 10 ans, et il est à l'école, et il ne peut pas nous entendre.
Ah, mais il est à l'école, il m'a dit qu'il avait, c'était fini l'école.
Non, ils ont retrouvé une maître, moi un prof qui l'a remplacé.
Ouais, cette année c'est compliqué.
Ouais, c'est une catastrophe cette année, voilà, une vraie
vraiment...
catastrophe.
Ah ouais, bon.
Cette année,
en 10 ans, ça...
déjà l'année dernière c'était pas fameux, mais
ouais, c'est pareil,
avec
c'est...
le Covid.
Bon, bien. En tout cas, il a 10 ans aujourd'hui.
Il a 10 ans aujourd'hui, donc, et donc faire ta gueule à la récré, comme disait Alain Souchon.
Vous la connaissez la chanson ?
C'est une vieille chanson. Je la connais pas par cœur. Je crois qu'il la connaît mieux que moi, Philippe.
Non, je voulais vous entendre chanter la chanson.
Non, je sais pas trop
j'ai
la chanter.
J'ai 10 ans.
J'ai 10 ans, vas-y.
Laissez-moi rêver que
j'ai 10 ans. Tarte ta gueule.
Voilà, c'est ça. C'était cette chanson d'Alain Souchon.
Mashallah.
Ceci n'ayant rien à voir avec cela, nous allons commencer par parler de l'inclinaison ce matin. Il y a un terme arabe pour définir l'inclinaison.
Oui, on a déjà dit que, déjà la semaine dernière, c'était le sujet, on a parlé de roku, c'est l'inclinaison. Mais là, aujourd'hui, c'est pas vraiment l'inclinaison, c'est le fait de se relever de l'inclinaison. Parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir l'idée de dire, je suis incliné, l'important c'est d'être incliné, et donc à partir de l'inclinaison, je peux aller directement vers la prosternation.
Et non ?
Alors non, il faut se relever.
Donc il faut se relever.
Il faut se relever.
Et donc c'est une posture
c'est une
qui a
posture
un statut.
Obligatoire, qui fait partie des piliers de la prière. Que ça veut dire que si vous n'êtes pas relevé de l'inclinaison correctement jusqu'à avoir la tête bien dressée, redressée correctement, eh bien vous devez vous remettre en position d'inclinaison dès que vous vous rappelez. Et refaire l'opération, c'est-à-dire la gestuelle de la prière qui consiste à se relever de cette inclinaison qui, je rappelle, est un acte obligatoire.
D'accord, donc c'est une étape qu'on ne peut pas passer. Alors, on rappelle les six piliers de la prière.
Alors, les piliers de la prière, nous avons d'abord Takbiratul Ihram, le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière. La récitation de la Fatiha, ça aussi c'est très
obligatoire.
Important. La sourate après la Fatiha n'est pas un pilier. Mais en vrai, si je le cite, c'est parce que les gens pourraient penser que c'est obligatoire. C'est une forte recommandation, mais qui n'est pas obligatoire. Le fait de s'incliner, le fait de se relever de l'inclinaison, le fait de se prosterner, le fait de se relever de la prosternation en position à genoux, le fait de se reprosterner une seconde fois, et le fait de faire le tashahhud, ce qu'on appelle quand on est à genoux à la fin de la prière. Donc chaque raka'a de la prière doit être composé d'une posture à debout, d'une posture inclinée avec un redressement, et de deux prosternations séparées d'une position à genoux. Ça, c'est et bien sûr le tashahhud à la fin, le tashahhud akhir, je parle, qui sont les piliers de la prière. Si vous avez négligé un seul de ces piliers, vous devez refaire au moins la raka'a. C'est-à-dire, vous devez annuler une raka'a. Si par exemple, vous êtes en train de faire la prière de dhuhr, où il y a quatre raka'a, eh bien, vous en faites une cinquième. Et celle qui n'a pas été faite correctement, vous l'annulez dans votre tête et vous en faites une cinquième. Et vous rajoutez à cela deux prosternations qu'on appelle les prosternations de l'oubli, sujud de sahou, que vous faites à la fin de la prière parce que vous êtes trompé dans une raka'a et donc vous punissez le diable de vous avoir tourmenté, de vous avoir détourné, de vous avoir mis dans un état d'insouciance dans la prière, le rafla qu'on appelle en arabe, et donc vous accomplissez ces deux sujoud, ces deux prosternations. Donc ce qui est important à préciser, Philippe, c'est que ce roku'a est l'expression qui est à l'origine du mot raka'a. Quand on dit raka'a, ça veut dire une unité, elle est liée au roku'a. Ça veut dire que si vous n'êtes pas incliné, vous ne vous relevez pas de l'inclinaison, vous n'avez pas de raka'a. La raka'a n'est pas valable. Y compris quand vous rentrez dans la mosquée, par exemple, et que l'imam a commencé sa prière avec les gens. Vous arrivez en retard, et que l'imam est en inclinaison, dans la position de roku'a, et qu'il se relève avant que vous arriviez le rejoindre dans le roku'a, eh bien, cette raka'a-là, vous ne devez pas la compter. Même si vous êtes invité à accompagner l'imam dans la prosternation de, qu'il est en train de faire, de le rak'a que vous, vous dans vos têtes, vous n'allez pas compter. Et donc, vous allez, à la fin de la prière, quand lui va dire salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, vous allez vous lever et ajouter une rak'a ou deux, ça dépend combien de rak'a vous, vous avez raté avec l'imam. Tu comprends, Philippe? Une prière.
C'est compliqué, ce truc.
Mais non, c'est très simple. Oui. C'est-à-dire que si moi, je suis présent avec l'imam dans le rukou.
D'accord. Donc là, là, c'est en présentiel. C'est pas.
Ah, on parle de présentiel, oui, bien sûr. Oui. On parle pas de. Ça existe pas une prière collective.
Oui, on parle de virtuelle. Prière. Oui, non, on parle de prière collective.
On parle de prière collective.
C'est ça
voilà.
Que je voulais dire.
La prière collective.
C'est dans pas la prière à la maison.
Derrière un imam. Voilà. Derrière un imam.
Ça. On l'avait pas précisé. C'est pour
voilà.
ça que bon.
Ah oui, d'accord. Ok. Autant pour moi. Alors, donc je disais, si l'imam est dans l'inclinaison, dans le rukou, et qu'il se relève de rukou avant que vous vous le rejoigniez, cette rak'a-là n'est pas valable. C'est-à-dire pour vous, elle n'est pas. Vous devez pas la considérer. Même si vous êtes invité, vous devez pas attendre qu'il termine la rak'a. Vous devez entrer avec lui dans la rak'a, vous prosterner deux fois et faire comme l'imam y fait. Mais à la fin de la prière, avant le salam, vous vous levez et vous rajoutez une rak'a ou deux, ça dépend, comme je disais, ou trois, ça dépend le nombre de rak'a que vous avez raté avec l'imam. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Philippe?
Oui, là,
tu dois
c'est
donc
bon.
Comptabiliser. Et la posture butoir qui fait que vous avez validé la rak'a ou non, c'est le rukou. Si vous êtes un instant, un laps de temps même infime, incliné avec l'imam dans le rukou, votre rak'a est valable. Si lui se relève et vous, vous arrivez, eh bien non, c'est trop tard. Cette rak'a-là n'est pas valable. Vous aurez donc cette rak'a à rattraper à la fin de la prière. Vous n'avez pas commis de faute, hein, je répète. Hein, et vous n'êtes pas invité à vous dépêcher, à courir dans la mosquée. C'est très fortement déconseillé, comme nous l'a rappelé le prophète, alayhi salatu wassalam. On ne court pas dans la mosquée pour rattraper les recours, hein, les recours, etc. Dans la prière. Voilà. Voilà
bien.
Ce qui est.
Alors, qu'est-ce qu'il est recommandé de dire, Imam Abdelali, en se relevant de l'inclinaison?
Alors, si on est tout seul, on est soi-même imam et en même temps on est muqtadi, on dit, Sami Allahu liman hamida. Dieu écoute celui qui lui fait des louanges. Sami Allahu liman hamida. Je dis bien. Je répète, je traduis. Sami Allah, c'est-à-dire Dieu écoute l'iman, celui hamidahu qui fait des louanges, c'est-à-dire qui dit louange à Dieu, hamidahu. Et donc, comme tu dis que Dieu écoute celui qui chante des louanges, tu dois donc faire une formule de louange. Et tu dis Rabbana walakal hamd, ô mon Dieu, et à toi la louange. Alors, il y a quatre formules que l'on peut dire cette phrase-là. C'est le fait de dire « Rabbana wa lakal hamd ». Il y a « Rabbana lakal hamd » sans le « wa ». Vous pouvez dire ça aussi. Donc « Rabbana lakal hamd ». Vous pouvez dire « Allahumma Rabbana wa lakal hamd » et « Allahumma Rabbana lakal hamd ». Voilà quatre formules que vous pouvez, mais c'est à peu près toujours la même chose « Rabbana wa lakal hamd ». Donc « Oh mon Dieu, à toi la louange ». Et là, vous pouvez y ajouter à cela Hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. C'est juste un hadith rapporté par Muslim qui un jour le prophète alayhi salam, alors qu'il était en train de dire Sami Allahu liman hamida, les compagnons derrière lui ont dit Rabbana walakal hamd. Et un a ajouté. Il y en a un qui a ajouté quoi? Il a ajouté Hamdan kathiran, une louange importante, que kathir ça veut dire beaucoup, hein. Tayyiban, bonne, mubarakan béni. En elle, mubarakan fih. Et là ensuite à la fin de la prière, le prophète a dit, qui parmi vous a dit cette formule après avoir dit Rabbana wa lakal hamd? Il a dit hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Tous les compagnons ont eu peur d'avoir commis une erreur. Celui qui l'avait dit a levé la main, il a dit Rasulallah, c'est moi qui a dit cette formule là. Il a dit wallahi, j'ai vu une trentaine et quelques d'anges se disputer qui allait l'écrire dans les hasanats, dans les bonnes actions, qui allait la mentionner, qui allait l'écrire et l'inscrire pour l'élever auprès de Dieu, pour qu'elle soit fasse l'objet de d'une acceptation auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire combien ou combien le prophète a apprécié cette formule. Il a carrément dit que des anges, des dizaines d'anges se bousculaient pour pouvoir avoir le droit de l'inscrire dans leur feuillet et dans le feuillet de l'auteur qui est à l'origine de cette formule-là. Vous voyez que la sunna n'est pas que celle qui émane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle peut même émaner parfois des compagnons qui sont derrière lui. Et donc le fait de dire « Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih » est quelque chose de fortement recommandé. Il y en a même d'autres, hein, formules, on peut rajouter mil as-samawati wa mil al-ard, un hamd de louange qui couvre les cieux et la terre. Et au-delà même de ce qu'il y a au-dessus et de la terre, de ce que tu veux, Dieu, toi, mon Dieu. Donc il y a énormément de formules. Il y a pas que cela. Je répète, c'est pas exhaustif ce que je viens de dire. Mais en tout cas, quand vous vous relevez de l'inclinaison, il est recommandé de lever les mains, hein, parce qu'au moment de s'incliner, on lève ses mains, Philippe. On lève les mains au niveau des épaules, au niveau au-dessus des épaules. Et quand on se relève de l'inclinaison, là encore, on est invité à lever les mains. Au niveau des épaules. Ça, c'est l'avis de l'école Shafi'ite et de l'école Hanbalite. L'école Hanafite et l'école Malikite, eux, ne lèvent pas la main. C'est-à-dire qu'ils se relèvent de l'inclinaison sans lever les mains. Et ils ne mettent pas la main droite sur la main gauche. Alors que il y a des avis de savants qui disent que oui, vous pouvez, quand vous vous relevez de l'inclinaison, mettre la main droite sur la main gauche ou laisser les mains le long du corps. Voilà, c'est pour ce qui est de la posture que l'on doit avoir quand on se relève de l'inclinaison. Quelque chose qui est pratiqué par certains musulmans par erreur, c'est le fait de lever les yeux au ciel. Ils se lèvent de l'inclinaison et ils regardent vers le haut. C'est pas bien. Il faut pas lever les yeux. Quand on se relève, on baisse les yeux, on regarde, même si on se relève, on garde les yeux vers le haut, le bas, excusez-moi, à l'endroit où est de la prosternation. Il y a aussi quelque chose qui est important à préciser, c'est justement ces invocations que le prophète pratiquait à certains moments de sa vie, notamment pendant 40 jours, et on appelle ça le dua al-qunut. Qu'est-ce que c'est que le dua al-qunut, Philippe ? C'est le fait de carrément s'arrêter un laps de temps pour faire des dua, des invocations, des prières. Et donc ces invocations-là, le prophète, il les a pratiquées pendant 40 jours suite à la mort de 70 compagnons qui étaient des lecteurs, qui avaient été ce qu'on appelle les récitateurs du Coran, qui avaient été envoyés dans un village de Zakouan. Et ces gens-là ont tout simplement massacré ces lecteurs. Ils les ont tués, ils les ont assassinés froidement. Et donc le prophète a été très attristé. Et donc, il a imploré Allah Azza wa Jal de les couvrir de sa miséricorde et de les accorder parmi les martyrs. Et il a fait beaucoup de dua pour eux pendant une quarantaine de jours.
Alors, pourquoi 40 jours? Parce que vous savez que c'est une question qui revient souvent, cette question des 40 jours après un deuil. Est-ce que ça vient de là?
Non. Non, il n'y a pas de. Je répète. Non,
mais là, vous me dites une quarantaine de jours.
Oui,
40 jours.
Vrai,
donc, c'est pour
vrai.
Ça que.
Mais il n'y avait que dans ce cas-là. Il n'y avait pas. Par exemple, quand il a perdu.
Est-ce que ça peut pas venir de
quand
là?
Quand il a perdu. Le prophète, il a eu 7 enfants. Il y en a 6 qui sont morts de son vivant. Eh bien, le 40e jour de la mort de ses enfants, il n'a jamais célébré un rituel.
Il y a que dans ce cas-là, dans où ce cas-là, 40 jours.
Il y a eu 40 jours de prière, mais pendant les 40 jours.
D'accord.
Et à chaque fois, c'était après Salat al-Fajr. Non, pendant la prière de al-Fajr, quand il se relevait de l'inclinaison, il se relève de le coin, il lève les mains et il disait le fameux dua qu'on appelle dua al-Qunut. Allahumma ahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik illahumma lana fi ma atait, wa qina wa sarif anna. شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Voilà ce que disait le prophète, entre autres selon l'école Shafi'ite. Il y a un autre avis chez l'école Malikite. Et alors chez l'école Malikite, c'est aussi pendant la prière de l'Fajr que l'on fait ce Qunut, cette invocation du Qunut, mais on va la faire avant le Rukou'. C'est-à-dire après avoir terminé la Fatiha et la Sourah, on va donc à partir de là faire le Qunut. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'dik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayk wa nusni 'alayka al-khayr kullah. نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يفشرك اللهم إليك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق وصلي اللهم على سيدنا محمد. Donc voilà ce que disait selon l'école malikite. Alors ça, eux, pour eux, tu dois la dire avant le recours, avant l'inclinaison, le matin dans l'heure de la prière obligatoire qu'on appelle salat al-subh. Pour les hanafites, elle va se faire chez les Shafi'ites. Non, les Shafi'ites, c'est aussi la prière du matin. Chez les Hanafites, elle va se faire lors de la prière de l'Witr. La prière de l'Witr, quand vous allez vous prosterner, vous incliner, vous allez vous relever de l'inclinaison, et là, vous allez ce qu'on appelle faire du'a al-qunut, avec la même formule que l'école malikite. Alors qu'en est-il de l'école malikite? Est-ce qu'il existe un qunut chez l'école malikite? Je répète, oui, comme je disais, avant le rukou' et non pas après le rukou', contrairement à l'école shafi'ite. Voilà, donc il y a différents avis sur la question. Il y en a qui disent c'est avant l'inclinaison, il y en a qui disent c'est après l'inclinaison, il y en a qui disent que c'est salat al-subh, il y en a qui disent non, c'est l'witr, la dernière prière du soir.
Bon, on va revenir justement sur cette question. Je rappelle également que ceux qui nous écoutent peuvent vous interroger, Imam Abdelali, en direct, avec toutes vos questions au standard au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et vous posez vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. C'est le numéro du standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000. Je rappelle que ce matin, imam Abdelali, nous parlons de l'acte de se relever de l'inclinaison. Alors, est-ce qu'on doit se prosterner directement après s'être relevé ou bien il faut dire quelque chose avant?
Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, quand vous vous relevez de l'inclinaison, vous êtes invité à dire d'abord la formule « Dieu entend celui qui le loue ». Donc c'est un moment de louange, c'est un moment où ce qu'on loue, on manifeste avec accentuation le fait de louer Allah Azza wa Jalla, le fait de lui faire chanter sa louange.
Alors, vous êtes surpris parce que je vous repose une question, mais comme je ne vous l'ai pas posée tout à l'heure, mais vous y avez répondu. Vous y avez répondu. Donc, c'est pour ça. Je me rends compte en vous la posant qu'effectivement, c'est une question.
Qui a déjà été.
Non, à laquelle vous avez déjà répondu, mais que je ne vous avais pas posée.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave.
J'ai l'air bête.
C'est un rappel.
C'est comme ça.
Donc, on lève les mains. C'est bien de lever les mains quand on se relève de l'inclinaison. On dit tout simplement la formule suivante: Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Et on peut ajouter à cela hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Et on peut même ajouter à cela mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd kama tuhib wa tarda. Après il y a d'autres formules on peut ajouter fiha al-khair wa baraka sur cette posture quand on est debout. Et on doit vraiment marquer un temps d'arrêt, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se relever pour avoir à juste démarquer l'inclinaison de la prosternation.
On n'enchaîne pas les choses.
Ça fait partie des positions de la prière. On est debout entre l'inclinaison et la prosternation. C'est cette position-là qui est importante. Et il est recommandé à ce moment-là aussi, le matin, à Salat al-Fajr, de faire ce qu'on appelle du'a al-qunut. À voix haute, lever les mains et de dire Allahumma hdina fi man hadayt, donc le fameux dua, guide-nous parmi ceux que tu as guidés, etc. La longue invocation selon l'école shafi'ite. Chez les hanafites, je répète que cette invocation qu'on appelle le qunut se fait avant l'inclinaison. Mais que vous la fassiez avant l'inclinaison ou après l'inclinaison, c'est valable. C'est bien de le faire le matin. Comme ça, vous débutez la journée en vous remettant, en vous ayant remis entre les mains de Dieu et de sa bénédiction, de son soutien, et dans lequel vous avez manifesté votre soumission totale à lui. Et puisque vous le dites clairement, vous dites: Oh mon Dieu, c'est à toi, c'est toi que nous adorons, c'est toi à qui nous vouons notre prière et nos prosternations, c'est vers toi que nous allons et que nous nous soumettons, nous espérons ta miséricorde, nous craignons ton châtiment, car ton châtiment est digne de ceux qui se sont rebellés contre toi. Et nous te chantons toutes les louanges. Onusni alayka al-khayra kullahu. Voilà, nakfuruk, et nous ne renions pas la foi en toi, wa nu'minu bika, et nous croyons en toi, wa nakhda'u lak, et nous nous soumettons à toi. Donc toutes ces invocations permettent aux croyants dès le matin de rentrer dans une détermination de vivre cette journée dans la soumission et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est notre raison et c'est pourquoi Allah azza wa jalla nous a créé quand il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc, et quand je répète l'adoration, il ne s'agit pas de simplement. L'adoration ne se définit pas seulement par la prière. Travailler, c'est une adoration. Sourire à son frère, c'est une adoration. Dire bonjour à quelqu'un, c'est une adoration. Être gentil, faire un acte de bienfaisance, assumer ses obligations dans la journée, ce sont des actes d'adoration. Donc l'adoration ne se limite pas à simplement se prosterner ou s'incliner. Voilà ce que Dieu veut de nous, que nous vivions à chaque moment de notre vie.
Est-ce que les actes d'adoration sont listés quelque part et répertoriés quelque part, Imam Abdelhadi ?
Vous avez les adorations rituelles. Celles-ci, elles sont répertoriées. Il y a un nombre limité. On ne peut pas inventer des adorations rituelles. Les adorations rituelles qui n'ont pas été légiférées dans le Coran ou dans la Sunna sont considérées comme des innovations détestables, qu'on ne doit pas faire. On ne peut pas inventer une pratique, un rituel qui n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Même si ça émane de je ne sais quel saint ou je ne sais quoi qui vient vous inventer quelque chose, ou même des gens qui disent « moi j'ai vu dans le rêve le prophète qui m'a dit ça, ça, ça ». Non, l'islam a été parachevé après la mort du prophète. Il n'a rien laissé derrière lui. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Donc faites attention, quelqu'un va vous dire, oui, il est recommandé de faire ci. T'as des preuves, t'as un dalil. Il faut le dalil pour prouver que une adoration est légiférée. Alors que le reste des formes d'adoration, telles que même avoir des rapports avec sa femme, c'est un acte d'adoration, c'est une sadaqa. À partir du moment où tu le fais pour te hassan, c'est-à-dire pour te préserver de la turpitude, ou que tu donnes à manger à tes enfants, ou que tu vas faire tes courses pour tes enfants ou ta famille, que tu ailles payer tes factures, c'est un acte d'adoration. Que tu sois quelqu'un d'honnête, d'intègre, tu as une attitude civilisée, tu ramasses les détritus que tu peux trouver sur le chemin qui gênent les passants, n'importe quoi. Tu prends quelqu'un en stop, tu ouvres la porte à une dame à l'ascenseur ou bien au niveau de la porte d'entrée. Tout ça, ce sont des actes d'adoration. Voilà, et celles-là, elles ne sont pas répertoriées à hadith ou à la haraj. À partir du moment où ton cœur te dit ça, c'est bien, eh bien, c'est bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher midi 14. Istafti qalbak wa in aftauk wa aftauk. Interroge ton cœur, même s'il te donne des avis.
Bien, alors vous pouvez interroger l'imam Abdelali, hein, si vous avez des questions à poser au 01 53 48 3000. Nous avons Abdallah qui est avec nous. Abdallah, bonjour et bienvenue.
Salam alaikum, bonjour.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Une question, j'ai envie de vous la poser en dialecte, comme ça je serai beaucoup mieux que je t'ai. Cher, salam alaikum.
Salam alaikum, salam alaikum.
J'ai mon père, il était commerçant à la base. Qu'il a le septim, il voulait qu'il m'a voulu. Il s'en fait collège. Donc il a commencé à vendre tout ce qu'il avait. Il lui restait un bien, une très très grande résidence. Tout fait, tout le manière. Mais il m'a libé avec les bras.
Oui, mais il j'ai pas compris, il Ma'amen par Issafi. Ah, donc les dettes, il voulait s'acquitter de ses dettes. Voilà, ok, d'accord.
Donc la résidence qui touffa, peut-être 10 000 euros de dettes.
D'accord.
Les deux frères fait l'étranger, ah oui, non, à peine à l'air de nous deux frères fait bled et deux sœurs.
D'accord.
Finalement, dernièrement, on l'a mis en vente, mais ils l'ont loué.
D'accord.
Quand il a été loué, moi, je récupère l'argent que j'ai donné.
Il récupère l'argent qu'il a donné pour faire quoi ? Pour construire la maison, vous voulez dire ?
Non, qu'il a donné pour le remboursement de la dette.
Ah, parce que lui, il a remboursé les dettes de son père.
Taouia,
vous avez tout remboursé, d'accord ?
Pas tout, disons 10 à 25% à peu près, pas tout.
D'accord, ok, continue.
Disons, l'équivalent de 6 000 ou 10 000 euros, on a payé 5 000 ou 4 000 euros. Maintenant, vous ne me remboursez pas. Taouia, ici, elle a remboursé. Moi, je récupère mon argent.
Oui, d'accord.
Parce que la raison, c'est la première question.
Alors, attends, on va répondre à cette question. Dieu, dans le Coran, il est clair quand il parle de partage d'héritage. Il dit que le partage ne peut se faire que seulement après avoir payé les dettes du défunt ou bien avoir réalisé le testament, un testament qui est légitime. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. أو دين, le mot dain qui veut dire dette. Donc on paye d'abord les dettes du défunt. Personne ne peut toucher un centime de l'héritage avant qu'il soit payé la dette. Ça veut dire que si quelqu'un touche l'argent de l'héritage, alors que le défunt, il avait des dettes, c'est comme si que c'était lui qui avait repris la dette de son défunt. C'est lui qui assume, c'est lui qui prend la responsabilité de payer la dette. Donc, je répète, la première des choses à faire, c'est de payer les dettes. Ensuite, de respecter le testament. Qu'est-ce que c'est qu'un testament ? Un testament, c'est un document ou bien une parole verbale qui a été entendue par plusieurs témoins, dans lequel ils ont entendu que le défunt, avant de mourir, et pas dans son lit de mort, faire un vœu, dire voilà, moi après ma mort, je souhaiterais qu'on fasse comme ci ou comme ça. Ça veut dire quoi ? Par exemple, ils souhaiteraient que l'on donne une partie de l'héritage à des orphelins, ou bien qu'on construise un puits, une fontaine, on donne de l'argent pour la construction d'une mosquée, même bref, n'importe quoi, mais avec un plafond maximum d'un tiers. On peut pas faire un testament supérieur à au tiers. Aussi, il est interdit de faire un testament pour quelqu'un qui est déjà bénéficiaire d'un droit coranique. يعني من أهل الورثة لا يجوز الوصية للوارثين قال قال عليه الصلاة والسلام لا 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 وصية لوارث لا وصية لوارث فالإنسان مثلا le père il dit moi je veux qu'après ma mort on donne un tiers de mon, de mes biens à tel fils ou à quelqu'un qui a déjà un droit de une part déjà dans le Coran et bien had le testament il est pas valable, il est caduque et non avenu, on ne l'applique pas, on ne le respecte pas. D'accord. لأنه وارث لأنه وارث. أما سي إذا كان إنسان ليس بوارث. بعدم عنده عمه ولا خاله وعجبه باي يعطيه هدية. Il a envie de donner. Il a le droit de faire un testament et de donner à son frère ou à son oncle, qui ce soit, qui n'est pas héritier, puisque l'oncle, le خال ou l'عم هذا لا يرثون مع الأبناء. Ils n'ont pas le droit à un héritage avec la présence des enfants. Eh bien, si le père veut, moi le défunt, avant de mourir, décide de verser une somme d'argent à une personne non héritière, eh bien, il a le droit de le faire à hauteur, avec un plafond maximum d'un tiers. Pour ce qui est de Dain, je répète, par rapport à ta question, on doit payer la dette. Et celui qui paye la dette, qui a payé la dette, on doit le rembourser avant de commencer à partager quoi que ce soit. D'accord. Celui qui le réclame. Bien sûr. Ou anta kadalik lak al haqq an turadd al dayn. خلاص انت هذا شغلك. ولكن اخي اذا كان الدين ما زال, s'il y a encore d'autres dettes, s'il reste encore des dettes, il faut d'abord verser la totalité des dettes avant de partager quoi que ce soit.
واحد خويا من الجزائر يقول بلي انا ما عندي حتى دار في الدين ندي دراهمي. Il a pris son argent. Le bien qui a été loué à une forte somme, il a pris son argent. Est-ce qu'il a le droit ? Qui veut se dire où l'eau ? Il n'y a pas de salage bedine. Il n'existe pas.
كيف ما يستعرف بالدين ما يستعرف
بالدين اللي خلاه
المرحوم يعني هو ينكر يعني النيك يا
يدي قال انا ça me regarde pas
ah ça ne me regarde pas mais il dit pas qu'il y a pas de dette, il dit qu'il y a une dette mais ça me regarde pas, c'est ça.
Aucune idée, انا مانيش حاضر مي ليسونسييل خلاص القول هو كي دخل عند النوتير حتى دراهم بشريه.
يا اخي الكريم اسمعني, هناك ائمه وعلماء في الجزائر. Il y a des savants, des ulama. Excusez-moi, les personnes à qui il doit de l'argent le défunt, ils sont en France ou en Algérie? Eh ben, il faut que... شوف اخويا الكريم, هذا الانسان هذا au moment du partage, au moment du partage de la
هذا درهمه.
Mais vous m'avez dit qu'il a pas, vous voulez pas verser tout.
Non, هذا الخطره كي يكون باب المرحوم خلى غير هذا الانسان هذا, هذا الضربه هذه درهمه خلاص يفيني.
Qui a payé la dette de cette personne là?
La location du bien qu'il a utilisé.
Ah, d'accord. Donc vous avez utilisé la location du bien, ouais, pour payer la dette, c'est ça ?
Pour payer de la dette, c'est ça.
D'accord. Et ensuite, le reste ?
Bah, le reste, ça reste une force de sang. Même pas de nakasmo, il n'y a pas de souci. Ou la tête d'homme, il m'a choué à ce qu'il y a, ça ne regarde pas. Mais l'essentiel, il y a deux principes. Toi, avocat, il y a des gens qui ont dit à la pedrame ou à l'homme.
Mais normalement, on n'a pas le droit de louer un bien qui est d'une personne qui est décédée. Parce que là, maintenant, il n'a plus de propriétaire. Le propriétaire, il est mort. Donc, comment vous osez, comment vous pouvez louer un bien, comment vous pouvez louer un bien d'une personne qui est décédée? Comment vous avez pu rédiger le contrat de location alors que le bien est
mort? Autant que
Ouaratha? Il faut d'abord que, à ce moment-là, on partage d'abord. Il faut que le notaire, il fasse les documents. Il faut qu'il, ce qu'on appelle, il pratique la farida. Il coule, je coule, il dit, Soit il y en a un, il dit moi je suis capable de payer l'intégralité de la maison et je reverse l'argent chaque واحد حقه باش la maison soit à mon nom. يا خويا اسمعني اسمعني خليني وين نكمل كلامي معليش باش الناس يستافدوا. Je répète, soit il y a un d'entre vous qui est capable de payer l'intégralité de la maison, c'est très bien. Soit il y a personne qui est capable de payer, vous pouvez pas la louer, vous devez vendre la maison et vous, chacun il prend sa part et c'est tout. Il y a pas à louer la maison, c'est quoi ce délire là? Vous la louez au nom de qui? La maison elle est à qui? Qui signe la location? C'est le propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire. Les héritiers, vous n'êtes pas encore propriétaire puisque vous n'avez pas procédé au partage. Vous n'avez pas pratiqué la farida. C'est quoi cette fawda هذا في الجزائر انتوما دايرين n'importe quoi. هذا الكراء لا يصح اصلا. Voilà خويا.
Voilà ce qu'on pouvait dire. Abdellah, merci pour votre question. Et l'imam Abdelali va répondre à d'autres questions dans un instant au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. On accueille Samir, imam Abdelali.
مرحبا سمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح
مرحبا بك أخويا سمير
الله يسلمك الحمد لله
tu nous appelles de quelle ville
de Pantin
Pantin مرحبا بك Pantin ça elle est ouvert la mosquée à Pantin
la mosquée des Turcs je crois que
non la mosquée là, qui était
moi,
qui...
moi je suis plus vers l'église de Pantin pas Pantin vers Bouguini et tout
d'accord ok خير. Je crois qu'elle est ouverte, il me semble.
Ouais. Oui. En fait, c'est juste pour le rondeau.
Non. Les ablutions.
Quand on est en Djanaba, on va faire le rondeau à l'Akbar. Après, pour faire la prière, est-ce qu'on refait le rondeau à l'Akbar ou on fait la prière directe?
D'accord, bonne question. Alors d'abord, on va utiliser les bons vocabulaires, Khisamir. Quand on fait ces grandes ablutions, ce qu'on appelle les ablutions majeures, il faut dire al-ghusl, il ne faut pas dire al-wudu. Ça ne s'appelle pas al-wudu. Quand on dit al-wudu, ça veut dire les ablutions mineures. Al-wudu sahir. Nous avons le kalimat al-wudu. Amma al-wudu l'akbar, yusamma bil-arabiya al-ghusl. D'accord? Donc, al-irtisal. Al-irtisal min al-janaba. D'accord. Est-ce que al-irtisal yughni an al-wudu? Est-ce que les ablutions majeures se suffisent d'elles-mêmes sans qu'on ait besoin de refaire en plus les ablutions mineures? La réponse est oui. On n'a pas besoin de refaire les ablutions mineures, l'wudu, بعد الغسل, بعد الاغتسال. بل يكون ذلك إسراف في الماء. C'est du gaspillage d'eau. Quand vous faites vos grandes ablutions, c'est-à-dire l'wudu, l'akbar, اللي هو الغسل, vous lavez les mains d'abord. Pour que vous puissiez vous laver le corps avec des mains propres, on est bien d'accord, vous n'allez pas vous laver le corps avec des mains sales, vous prenez du savon, c'est l'idée bien. Ou traîner le mail ici, il faut grâce qu'avec la douchette, tu laisses l'eau qui coule sur la tête. Tu te laves la bouche, le nez, le visage, d'accord. Ensuite, tu te laves le bras droit, le bras gauche, et là, tu mets ensuite du savon, du shampoing sur la tête. Le shampoing ou du shampoing gel, et à ce moment-là, tu vas savonner la tête et toute la partie droite de ton corps.
Okay.
Y compris les bras, y compris le flanc droit, la jambe droite, la jambe jusqu'au pied, etc. D'accord? Ensuite, tu refais la même chose avec le côté gauche, donc de la tête jusqu'en bas. Et ensuite, tu rinces. Et après avoir rincé, tu sors en te lavant les pieds. Parce que le parterre, il est peut-être un peu sale. Donc, tu chèles le rajlik bien comme il faut, tu le mouilles bien. Et tu enlèves les impuretés des pieds. Et ça suffit, tu t'habilles, tu te sèches et tu sors et tu te salles hakda. Salatak sahiha, lana l'irtisal, huwa wudu, c'est une ablution. Il y a pas besoin de faire encore l'eau dont zin toi damazal. Alan khsar lma. Pourquoi gaspiller de l'eau? Je sais qu'il n'y a pas que toi qui tombe dans ce piège. Beaucoup pensent qu'aussi il faut faire comme ça, il faut faire les petites ablutions après les grandes, c'est du n'importe quoi. Vous ne devez pas refaire les petites ablutions, c'est du gaspillage d'eau. Si moi, Anamata, je te donne un exemple. Il y a une table.
Ouais.
Il y a un coin de la table qui est sale. Nettoie le coin de la table. Mais toi, au lieu de nettoyer le coin de la table, tu nettoies toute la table.
Ouais.
Est-ce que tu vas renettoyer encore le coin de la table?
Non, c'est bon.
Bah non, c'est bon, t'as nettoyé toute la table. Léna fait le ghusl akbar. Fiha le wudu al-asghar. Yani, tu es en train de laver. Toutes les parties concernées dans le wudu al-asghar sont concernées quand tu fais tes grandes ablutions. Donc pourquoi refaire encore les petites ablutions après? Ça n'a aucun sens. Tu comprends, Khi?
J'ai compris.
Donc par contre, ne pas oublier de laver la bouche et le nez et le visage au début. On lave.
Non, il faut toucher tout le
corps. Voilà, ensuite tu fais tout le corps. Avant de laver la bouche et le nez, c'est bien de se laver les parties intimes aussi. On se lave d'abord les parties intimes avant de commencer la bouche, le nez, etc. D'accord, avec du savon hein, toujours. Voilà, khi.
Barakallahu fik, cheikh.
Fik el baraka, marhaba bik. Jami'a Ramadan, Jumu'a Mubarak.
Merci Sami. Alors, nous avons Karim qui est avec nous au 01 53 48 3000. Karim, bienvenue.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam, akhi
Karim. Bonjour à tout le monde. Imam, j'ai juste une question à vous poser, s'il vous plaît.
Mm-hmm.
J'avais en fait ma grand-mère qui vivait chez nous.
Oui.
Et quand elle est décédée, bah, j'ai pris ses bijoux, je les ai vendus.
Oui. Ensuite.
Et il a des héritiers. Et je voulais savoir comment je fais pour réparer ça, s'il vous plaît.
Ah, bah, tu rembourses à chacun, tu dois leur dire combien tu as vendu les bijoux. Et combien chacun des héritiers avait droit, quelle était sa part à chacun d'entre eux, et tu leur dis, voilà, j'ai une dette envers toi qui est de temps. Tu dois rembourser chacun sa part. C'est-à-dire que tu dois dire combien tu as vendu les bijoux. Par exemple, supposons, ça vaut 100 000 euros, je donne un chiffre comme ça, hein, au hasard. Ensuite,
bijoux, ça.
Ouais, bon, je dis au hasard, c'est juste pour avoir un chiffre rond. Et que, par exemple, votre grand-mère avait laissé,
il a trois garçons, c'est tout.
Hein. Trois garçons. Donc, 100 000 euros divisé par 3, ça fait 33,33 000 euros. D'accord. Eh bien, tu devras, t'as une dette, puisque toi, tu n'es pas héritier, tu n'as pas le droit de toucher de cet argent. Ou bac, ton père, il était décédé ou il était vivant à la mort de ta grand-mère?
Non, il était vivant. C'est juste en fait, moi, j'étais en galère, j'avais besoin d'argent et je l'ai pris, c'est tout.
Bah, voilà, c'est une spoliation. On va pas dire un vol, on va dire une spoliation d'un bien qui ne t'appartient pas et sans avoir. Ah oui, bon, voilà. Donc c'est une erreur. Il faut que tu le dises. Il faut que tu le reconnaisses et que tu dises aux héritiers, voilà, combien tu as vendu ces biens-là?
Ouais, je l'ai vendu à peu près, on va dire, 1200 euros.
Ah, c'est pas énorme, 1200 euros, c'est facile à rembourser. Non. Voilà, frère, voilà, écoute,
je voulais savoir s'il faut que je les rembourse ou il faut que je prenne une sadaqa pour elles. Mais
non, tu dois rembourser les héritiers, c'est tout. Les héritiers, ils doivent toucher leur héritage. Ils sont trois, tu partages par trois et tu donnes à tes oncles, leur part, deux tiers.
Ouais, à mon père, ouais.
Non, à ton père, tu lui donnes son tiers. S'il est vivant, il est vivant, mazal hayoua.
Ouais, il est vivant.
Eh ben, tu lui en parles, et puis, inshallah khair, tu vois avec lui, est-ce que il veut les récupérer maintenant? Voilà. Donc, c'est 1200, ça fait combien? 400 euros
par oncle,
c'est pas énorme. Et pour ton père.
Merci,
voilà.
Barakallahu
fik. Jazaka khair.
Merci. Karim, Fatima est avec nous. Fatima, bienvenue. Fatima.
Bonjour.
Fatima ou Fatma?
Fatma.
Fatma avec un N, Philippe. Le Fatma, N de Nicolas.
Fatma
avec Fatma, le M, d'accord, pardon.
Oui, voilà.
D'accord.
Voilà, salam alaikum.
Là, j'ai entendu Fatna au début. Mais parce qu'il y a le Fatna, ça existe aussi, Philippe.
Mais je sais que ça existe.
Fatna.
Oui, ça existe.
Ça veut dire celle qui est perspicace.
Vous êtes mon maître.
Fatna, ça veut dire perspicace, être futile, intelligent. Le fitna, ça vient du mot fitna qui veut dire l'intelligence.
Allez, on y va pour la question parce qu'on a
pas de temps. Oui, Fatma, allez-y.
Voilà, je vous pose la question. Je veux acheter une
maison. Non. Et
la maison, elle dit qu'elle est non, elle va acheter une maison parce qu'elle a besoin de crédit et le crédit est haram. Et je suis venu avec des gens d'autres qui ont dit qu'il y a une banque islamique.
Je
vais acheter une maison. Par exemple, le Romain, il te la vend, avec un prix fixe que tu rembourses.
Alors, ça ne s'appelle pas un prêt, ça s'appelle une vente à terme. C'est une vente avec des échéances. Donc, ils vous vendent la maison. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'emprunt de crédit à la banque.
Il n'y a pas d'emprunt.
Voilà, il y a directement un achat. Eh bien, ça, voilà. C'est autorisé, il n'y a pas de problème. Madame, c'est très simple. Ouais. Je dis ça à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Que vous allez signer, si vous allez signer un contrat d'achat, et il y a un contrat d'achat et que achat, et quel que soit le prix qui est mentionné sur cet achat-là, quel que soit le délai que vous vous donnez, si à partir du moment où il est bien mentionné, le prix, quel que soit le prix, quel que soit la date du délai de paiement de ce prix, ça c'est halal, il n'y a aucun problème. D'accord. À partir du moment où il y a une banque qui vient et qui dit, monsieur, non, pour payer la maison que vous allez signer d'abord avec moi, la banque, un crédit. C'est là le problème.
Voilà, oui.
Si vous ne signez pas ce contrat de crédit avec la banque et que vous ne signez qu'un achat à terme, quelles que soient les modalités de paiement avec des mensualités étalées sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, ça c'est halal, il n'y a aucun problème. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. Dieu a autorisé la vente et il a interdit les crédits usuriers.
Les crédits, d'accord.
Riba, l'usure.
Les banques islamiques, est-ce qu'il
y a un... Il n'y a pas de banque islamique, ça n'existe pas le mot banque. Il y a par contre, arrêtons de faire peur aux non-musulmans en parlant de vouloir islamiser tous les banques, on veut tout islamiser. Il n'y a pas de banque islamique, il y a des produits financiers qui sont conformes aux règles musulmanes, aux lois musulmanes. Voilà, c'est tout. Il faut pas parler de banque islamique. Il y a pas de banque islamique en France et on ne veut pas de banque islamique en France. Et comme il n'y a pas de, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va appeler des centres commerciaux islamiques ou tout ce qui est islamique. Oui, oui. Non. Et on va arrêter d'utiliser le mot islamique à toutes les sauces. D'accord. Donc il y a des produits qui sont proposés la Banque Populaire ou n'importe quelle banque.
Je peux trouver ça.
Alors vous avez la société Easy 570 qui peut éventuellement vous proposer ce genre de produit. Ce n'est pas une banque, c'est une société. Easy 570. 570, c'est la date d'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Easy comme le mot easy en anglais qui veut dire facile.
D'accord.
570, vous allez renseigner, ils vont vous donner les modèles. C'est vrai que c'est plus cher qu'un crédit classique. Ce genre de produits sont plus chers.
Merci beaucoup.
Merci Fatma. Allah ybarik. Allez, dans un instant, Imam Abdelali, on se donne rendez-vous pour les petites annonces solidaires. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bien sûr vous appeler sur votre téléphone portable s'ils ont d'autres questions. Mais bien sûr, après l'émission.
Tout à fait. Après le Jumu'ah même. C'est-à-dire après 3h le vendredi. Donc, et après, vous avez tout le reste de la semaine pour m'appeler, Inch'Allah. Le 06 29 25 35 00. Alors, je vais le répéter. 06 29 25 35 00. Voilà pour toutes vos questions. Al-Imam Abdelali Ma'moun.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.